Chapitre 82. La reine d'Ildakar n'était plus qu'un abattoir, mais pour la ville, c'était l'unique chance de salut. Thora le savait et n'en faisait donc pas tout un drame. Tandis que la bataille contre les Norokai continuait côté falaise, la magie de transfert d'Elsa dévastait la vallée. Insensible à tout ça, Damon et Quentin tenaient à accélérer les choses en ce qui concernait le linceul et la Sovréna déchue les y encourageait. Sans état d'âme, les gardes poussaient des rangées de volontaires en pleurs sur le sable de la zone de combat. En des temps difficiles, ces braves gens, pris d'un accès de générosité, avaient offert leur vie pour Ildakar. Aujourd'hui, il faudrait joindre le suicide à la parole, et c'était beaucoup plus difficile que d'écrire son nom sur une liste. Des centaines de cadavres égorgés offraient déjà leur sang au système de drainage. C'était dans l'intérêt supérieur de la cité et se dérobait maintenant avec quelque chose d'indigne. Damon ayant apporté une attention toute particulière au système de drainage, pas une seule goutte de sang n'était perdue. Quant à la forme de sortilège, elle avait la taille et la profondeur requises pour contenir le fluide vital nécessaire à l'opération, voire même un peu plus. C'était ce que demandait Ildakar, et ce qu'attendait Thora depuis sa déchéance. Plus que jamais, elle était le cœur de la ville, et dans ses veines, c'était le sang même d'Ildakar qui coulait. Comme pour lui gâcher le plaisir, elle sentait toujours en elle un vestige de minéralité, plus qu'un vestige en réalité. Créateur du sort de pétrification, Maxime avait dû le neutraliser pour nuire un peu plus à Ildakar. La condition actuelle de Thora indiquait qu'il était toujours vivant, ce qui la mettait en rage. Devenue veuve, elle n'aurait plus eu de séquelles de son passage à l'état de statue. Cette Adessa, quel incapable! Mais pour l'heure, seul le destin d'Ildakar comptait. Luisant de sueur, Damon et Quentin étaient couverts de sang comme des bouchers dans un abattoir à Yaxen. Agissant en binôme, ils saisissaient une victime, l'un l'immobilisant pendant que l'autre l'égorgeait avec son couteau de cérémonie. Pour que l'opération ne devienne pas trop monotone, ils changeaient régulièrement de rôle. Après des centaines d'exécutions, ils tremblaient de fatigue, mais ça ne les empêchait pas de continuer avec un acharnement digne d'admiration. Sans doute, mais tout ça prenait trop de temps. Pour en finir au plus vite, Thora tendit un index en direction d'une rangée de sacrifiés, invoqua une lame d'air aussi coupante qu'un rasoir et fit un grand geste rectiligne. Égorgés à la chaîne par son couteau invisible, des dizaines de citadins tombèrent comme des quilles, la bouche ouverte sur un cri que leur cou béant ne leur permettait plus de pousser. Grâce au système de drain astucieux, leur sang filerait dans le creuset. Pour la survie de tous, chacun avait un prix à payer. Parfois, c'était de ne pas survivre. Devant l'efficacité de la lame magique de Thora, Damon et Quentin parurent déconcertés, mais ils finirent par s'y faire. Révulsés par cette boucherie, les agneaux sacrificiels à venir se montraient de plus en plus rétifs. Sans crier gare, une dizaine craquèrent et tentèrent de s'enfuir. Implacables, les gardes les aiguillonnèrent comme des yaksen, déchirant les chairs et les ramenèrent sur le sable.
« Égorgez-les vite !»
cria Thora.
« Il ne faut pas gaspiller de sang !»
Les gardes obéirent, puis firent en sorte que les dépouilles des poltrons se vident où il fallait. Depuis le début du rituel de sang, Thora avait le sentiment de revivre. Son rêve redevenu réel, elle allait sauver Ildakar, comme elle avait juré de le faire. L'histoire se souviendrait de la Sovréna Thora, et sa brève disgrâce sombrerait dans l'oubli. Lavée de la honte qui entachait son nom, elle allait jouer le rôle capital dans l'événement qui apporterait le salut à Ildakar. Cerise sur le gâteau, Nathan et Elsa n'étaient pas en ville, idem pour l'ignoble Nietzsche, du coup aucun de ces maudits ne serait sauvé. Une fois à l'abri du linceul, Ildakar aurait toutes les chances de devenir la société parfaite à laquelle Thora aspirait. Malgré sa froideur légendaire, elle eut du mal à contenir sa joie tandis que des dizaines de citadins offraient délibérément leur sang. Avec sa flamme invisible, elle continua à égorger des héros dont elle poussait ensuite la dépouille vers le système de drainage, un simple sortilège à base d'air. Le massacre pouvait paraître excessif, sauf quand on savait, comme Thora, que 1000 morts étaient un strict minimum. Pour en arriver à ce nombre, il faudrait encore des heures, sauf si des nobles détenteurs du don décidaient de se sacrifier.
« Ça ne va pas assez vite !»
s'impatienta la Sovréna réhabilitée. Choqué de la voir exécuter des gens à la chaîne, de plus en plus de volontaires essayaient de filer avec leur famille quand ils l'avaient embarqué dans cette exaltante aventure.
« Rattrapez-les !»
cria Thora indigné. La panique menaçait de se généraliser. Dans les rangs, en plus des volontaires, on trouvait pas mal de gens enrôlés de force par les gardes. Se doutant qu'il y aurait des reniements au dernier moment, Thora avait insisté pour qu'on ratisse large. Encouragée par la réaction de certains héros, ces « malgré eux » se rebellaient à présent contre les gardes. La répression était terrible, bien entendu. Mais pour ça, il fallait tuer des gens un peu partout dans l'arène, et chaque cadavre qui ne se vidait pas près des drains ne valait pas mieux qu'une carcasse de Yaxen. Plus grave encore, submergés par le nombre, les gardes faiblissaient de minute en minute. Les désarmants des rebelles les tuèrent, pas au bon endroit, hélas, avant de filer sans demander leur reste.
« Mais c'est pour Ildakar !»
s'indigna Thora.
« Si vous refusez de mourir ici, la ville tombera !»
Où en étaient les Norukai à présent? Et la charge furieuse d'Outros en riposte au sort de transfert? Personne n'entendit l'appel de la Sovréna. Résolus à sauver leur peau, les poltrons détalaient en entraînant avec eux leurs conjoints et leurs amis. Signer les grands livres de Damon et Quentin avait été un moment glorieux quand il semblait que l'heure de passer à l'acte ne sonnerait jamais. Les gardes survivants bloquèrent toutes les sorties, abattant, pour rien, les fuyards qui tentaient de passer. Dehors, d'autres gardes embarquaient de force les passants qu'ils croisaient. Des lâches, ces fugitifs, des minables indignes d'Ildakar et dont le sang aurait été de trop mauvaise qualité. Avec sa lame magique, Thora, hors d'elle, y alla si fort qu'elle décapita 13 sacrifiés d'un coup. Tandis qu'ils s'écroulaient, le geyser de sang qui jaillit de leurs coups ajouta au gaspillage. Damon et Quentin jouaient toujours du couteau, mais leurs victimes résistaient à présent. Et avec tout ça, il restait au moins 500 hommes et femmes à égorger pour atteindre le quota de sang.
« Non !»
gémit Thora, accablée. Des dizaines de gardes déboulèrent soudain dans l'arène. D'abord soulagée d'avoir des renforts, Thora déchanta quand elle vit la mine défaite de ses hommes.
« Les Norukai escaladent la falaise !»
cria un officier vert de peur.
« Ils ont déjà pris des tunnels. Bientôt, ils seront des milliers dans nos rues. »« Nous allons être à court de temps !»
explosa Thora. Si le linceul n'était pas activé d'ici à quelques minutes, Ildakar de nouveau à l'abri du temps et des hommes, tout serait perdu. Alors Thora aurait vécu et serait morte pour rien.
« Tu es en plus !»
lança-t-elle. Avec sa lame invisible, elle fit un carnage. Mais ses forces finirent par l'abandonner. À bout de magie, elle tenait à peine sur ses jambes. Pris de frénésie, Quentin et Damon égorgeaient ou éventraient indifféremment leurs victimes. Du gaspillage encore. Non loin d'eux, les prismes tournaient lentement. Et une pâle lumière se reflétait sur le miroir géant. Comme prévu, la magie du sang se déversait dans le creuset, mais il ne contenait pas assez de fluide vital. Thora tenta une nouvelle fois de raisonner la foule.
« Pourquoi refusez-vous de sauver Ildakar? Comment osez-vous ne pas donner ce que votre cité demande ?»«
Ces lâches ne méritaient pas de vivre dans une société parfaite. Thora leur souhaita de crever dans d'atroces souffrances. » Dans l'arène, l'air empestait la peur et la mort. Par endroits, les cadavres entassés faisaient comme une muraille de chair.
« Pourquoi ne veut-il pas payer le prix ?»
se lamenta Thora.
« Il doit y avoir un moyen de réussir !»
Poisseux de sang, Damon et Quentin se tournèrent vers la Sovréna, trop furieuse pour remarquer la lueur de folie dans leurs yeux. Les traits fermés, ils approchèrent d'elle, couteau au poing.
« Il y a un moyen, Sovréna, » dit Damon. « Et tu le connais ?»«
Tout le monde doit payer le prix, »
ajouta Quentin.
« Oui, nous pouvons conduire le rituel, » enchaîna Damon.
Il regarda son collègue qui hocha la tête.
« Tu sais quelle magie il faut pour ça, Sovréna.
Après des centaines de sacrifices, le pouvoir s'est accumulé et un coup de pouce suffira à lancer le processus. »«
Nous n'avons pas assez de sang !»
rugit Thora.
« Vous le savez aussi bien que moi !»«
Ce coup de pouce, ce peut être toi !»
dit Quentin.
« Comme tu l'as souligné, le sang des détenteurs du don est plus efficace. » « N'es-tu pas la magicienne la plus puissante d'Ildakar? En toi, la magie du sang est plus forte qu'en 500 victimes dépourvues du don. »
Damon avança, couteau levé.
« Un seul sacrifice, Thora, et le linceul reviendra. Comme tu l'as dit, chacun doit payer le prix. »
La Sovréna déchue eut un frisson glacé.
« Si vous croyez y arriver sans moi, vous êtes de pauvres fous. »«
Sans toi, nous avons besoin de toi, au contraire, de ton sang. »
Fondant lui aussi sur sa proie, Quentin tenta de présenter les choses de manière rationnelle.
« Tu as été jugé coupable, puis condamné à la disgrâce. Si tu veux te racheter afin que ton nom entre glorieusement dans l'histoire, c'est le moment ou jamais. »
Thora frappa avec sa lame magique. Encore vif, les deux sorciers érigèrent un bouclier pour se protéger.
« Tu es puissante, Sovréna, mais contre nous, tu ne fais pas le poids. »
Voyant Quentin bondir, Thora le repoussa avec un point d'air. Sonné, le sorcier tituba, mais son collègue, un modeleur, façonna avec le sable une sorte de corde qui s'enroula autour des jambes, puis du torse de la magicienne. Piégée, elle cria
« Plus un pas, traître !»
Quentin continua à avancer.
« Ton sang sauvera la ville. Allons, cesse de résister. Le temps presse.
Non !»
hurla Thora. Avec son don, elle parvint à libérer ses jambes, mais un point d'air lancé par Damon la fit basculer en arrière et s'écraser sur le sable rouge de sang gaspillé. Là maintenant, avec leur don, les deux sorciers sautèrent sur la Sovréna. Un moment, elle se crut assez puissante pour repousser les deux hommes, mais Damon lui enfonça la pointe de son couteau dans la gorge, assez fort pour transpercer la peau à demi-minérale. Thora saisit le poignet du sorcier et tenta d'écarter l'arme de sa chair, mais Quentin lui entailla aussi le cou, faisant jaillir le précieux fluide vital qu'il convoitait. Avant que sa vue se brouille, Thora vit son sang couler vers le creuset. Malgré une fureur que rien ne pourrait éteindre, n'était sa mort imminente, elle constata que cet ajout suffirait amplement. Bientôt, la forme de sortilège serait assez irriguée. De fait, avant de rendre l'âme, l'ancienne Sovréna sentit surgir du sol une puissante magie. Épuisé, Damon tenait à peine debout. En ce jour, il avait vu bien trop de morts, mais celle-là serait la dernière et la plus importante.
« On se dépêche !»
cria Quentin. Il prit Thora par les épaules et l'inclina de manière à la vider jusqu'à la dernière goutte. Avec un sang pareil, pas question de gaspiller. La quantité de fluide vital étant suffisante, le remplissage de la forme de sortilège commença. En principe, tous les membres du Douma auraient dû être là pour guider le sortilège. À l'origine, Damon avait espéré que Thora s'en chargerait, mais Quentin et lui allaient devoir prendre les choses en main. Dès que la forme de sortilège fut pleine, ils lancèrent le rituel. Partout, des fugitifs s'immobilisèrent et levèrent les yeux. Jaillissant de la fabuleuse machine, un flux de magie monta vers le ciel tandis que le sang des sacrifiés brillait comme de la lave.
« Le linceul !»
cria Damon.
« Le linceul !»
répéta Quentin. Partout à Ildakar, la qualité de l'air changea. Rien d'étonnant, puisque la ville de nouveau s'était abstraite de l'espace et du temps.